jusqu'à 9h30, on vous tient informés à la façon de Thaler le matin. C'est ça, le live.
Yes! Bonjour tout le monde et bienvenue. Il y a plus de 700 000 Canadiens, dont de nombreux Québécois, qui à chaque année s'en vont sur les magnifiques plages de Cuba. Cuba est un endroit, si tu compares aux autres, moins cher. N'oublions pas les plus belles plages de toutes, là. Oubliez pas ça, là. Jacques Cousteau, il en a fait quelques-uns. Il dit que dans les plus belles au monde, c'est les plages de Cuba. Personnellement, je suis un amoureux. Je suis un amoureux des plages, mais je suis un amoureux des Cubains aussi. Mm-hmm. Fait que pour en parler davantage, il est nouvellement retraité et j'ai nommé Luc Laliberté. Il est chroniqueur et analyste pour la politique américaine. Bon matin, comment ça va?
Oui, bon matin, ça va très bien. Puis retraite, ben c'est retraite de l'enseignement, parce qu'avec notre voisin, il y a un président dont on parle assez souvent, ouais. Ça me tient passablement occupé.
Oui, c'est ça. J'allais te demander à la blague, là. Quand tu prends ta retraite, tu perds-tu toutes tes connaissances?
Non, c'est la beauté de la chose, c'est que je pouvais continuer à enseigner, mais je cumule les deux, les médias et l'enseignement, depuis... Ça fait au moins 21 ans que je fais les deux ensemble. Et maintenant que j'ai arrêté d'enseigner, je me demande comment je faisais pour faire les deux aussi intensément, parce que je prenais énormément de plaisir à être en classe encore, puis les étudiants étaient toujours prioritaires. Mais là, je me dis, mais mon Dieu, il y a 24 heures dans une journée, je me disais comment pour arriver à faire ça.
Ouais. Hey, on est vraiment content de te parler ce matin, puis je veux y aller simplement. Le but, là, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce que je te propose, OK? Je vais vraiment te laisser aller. Ce que je veux, c'est qu'on commence la révolution. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais ça qu'on explique comment Cuba a survécu pendant 60 ans à l'embargo. Puis, on fait-tu face à la fin d'un régime? Puis, les Cubains, sont-tu prêts à ça? C'est à peu près ça qu'on veut savoir. Fait que quand t'es prêt, let's go, on t'écoute.
Écoute, quand on parle de la révolution cubaine, on parle d'un des événements les plus importants du 20e siècle. Surtout pour au 20e siècle, pour l'Amérique du Nord. On est dans les années 50 quand on parle de révolution cubaine, puis le régime là, va basculer, Fidel Castro, Che Guevara. Tout ça, on arrive là, autour de 58-59, surtout 1960. Il faut savoir, et c'est très important parce qu'il y a un lien avec la période actuelle, que quand on parle de la révolution cubaine, bien sûr, ça se passe entre Cubains, mais les Américains ne sont jamais très loin. Quand Cuba va obtenir son indépendance, c'était une colonie espagnole, Cuba, et quand on obtient l'indépendance à la fin du 19e, début du 20e siècle, les Américains sont déjà sur place. Il y a des Américains qui vont aller combattre à Cuba. Il y a même quelqu'un qui va devenir président américain qui se bat à Cuba avec ses hommes, pratiquement à ses frais. C'est Theodore Roosevelt qui a été président au début du 20e siècle. Mais si je le mentionne, c'est que dès le départ de l'histoire de Cuba, Cuba indépendant, les Américains sont là. Et dans la Constitution cubaine, il y a même des mentions pour dire ben on laisse finalement les Américains sur une partie du territoire pour des intérêts stratégiques. Je pense, par exemple, à la fameuse prison de Guantanamo. Les gens en ont beaucoup parlé, surtout après le 11 septembre 2001. Pourquoi les Américains sont à Guantanamo? C'est tout à fait légitime qu'ils soient là. C'est-à-dire que c'est légitime à tout le moins, en tout cas sur papier. C'est qu'ils se sont gardés cette place-là après l'indépendance de Cuba. Maintenant, on fast-forward, avance rapide jusqu'à la révolution cubaine. Non seulement Cuba était lié de très, très près aux États-Unis, pour le meilleur, mais souvent pour le pire. On disait même à la veille de la Révolution que la Havane était devenue le bordel des États-Unis. Donc souvent, ce qui était illégitime ou ce qui était illégal aux États-Unis, on avait le droit de le faire à Cuba. Donc on peut penser à la mafia, par exemple, on peut penser à l'alcool, on peut penser à la prostitution. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passaient à Cuba dans un régime qui était, avant la Révolution, un régime dictatorial, d'un dictateur qui était littéralement vendu aux intérêts américains. Et c'est là où on assiste à quelque chose qui est terriblement désorganisé au départ, quelque chose qui commence très mal, la révolution cubaine, parce qu'il faut savoir que quand on organise ça, on arrive de l'extérieur, on est parti du Mexique pour rentrer à Cuba, et que déjà en partant, les révolutionnaires, entre guillemets, se cassent la gueule. Donc, comment vont-ils se réorganiser puis monter au pouvoir? Si on fait une histoire qui est assez courte, c'est le ras-le-bol de la population qui, finalement, explique le succès des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'à plusieurs endroits, on va compter sur l'appui de la population et que c'est à partir donc du moment où on se réorganise sur le terrain puis qu'on a de l'appui de la population, qu'on peut marcher jusque sur la Havane puis qu'on peut, comme ça, renverser un régime. Et la chute de ce régime-là, ben, c'était même vu d'une certaine façon positivement aux États-Unis pendant un temps, parce qu'on aime bien les idées de Fidel Castro. C'est-à-dire, hein, on souhaite quelque chose d'un peu plus démocratique, on souhaite quelque chose qui se fasse pour le peuple, mais on va déchanter très, très, très tôt. Le régime qu'on met en place, finalement, à Cuba, va être un régime qui est communiste, socialiste, communiste. Et là, on va se mettre du côté de ce gouvernement-là à nationaliser une foule de choses. Et nationaliser, ça veut dire retirer les intérêts privés. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui prend en main le parti, qui prend les richesses du pays. Et là, ben, on entre en conflit avec des intérêts américains. Et en plus, comme on a des tensions avec les États-Unis, le réflexe que va avoir Cuba va être de se tourner vers l'URSS. Donc, l'URSS, on se rappelle, hein, quand on est dans les années 60, c'est la guerre froide, c'est la séparation du monde entre les deux grands camps, le camp américain d'un côté, les démocraties occidentales, puis de l'autre côté, tout ce qui va dépendre ou être lié à l'Union soviétique. Et là commence la rivalité très, très intense, encore plus intense, entre les États-Unis qui vont tenter à maintes reprises de renverser, faire assassiner Fidel Castro. Donc, c'est la tension entre les États-Unis et Cuba. Puis, avant de te laisser me relasser, un des moments les plus marquants puis les plus inquiétants du 20e siècle, c'est la crise des missiles de Cuba. C'est-à-dire que non seulement on va se lier à l'URSS pendant un temps, mais Cuba autorise l'URSS à installer sur son territoire des rampes de lancement de missiles. Ce sont des missiles nucléaires. Si vous regardez sur la carte ou pour ceux qui sont allés à Cuba, ben, Cuba, la Havane, c'est tout près hein, de la Floride. C'est aussi très près de Washington, finalement, si on parle de lancement de missiles. Et ce que les Américains constatent en 1962, c'est qu'on a les rampes de lancement et les missiles sont en route vers Cuba. Et à partir de Cuba, on pourrait aisément atteindre avec une arme nucléaire Washington. Et on a même eu peur jusqu'à Québec, jusqu'au Québec, des retombées puis de ce conflit-là. Et c'est là, c'est dans ce contexte-là, un peu avant et avec la crise des missiles, que va commencer le fameux blocus contre Cuba. Ouais. Finalement, donc, on va éviter la crise nucléaire, mais ça montre à quel point les tensions, d'abord, sont vives. Ça remonte à longtemps, ces conflits-là ou ces tensions-là avec Cuba, puis à quel point on est même venu près d'une guerre mondiale.
Avec ça. Luc Laliberté est chroniqueur et analyste pour la politique américaine. On parle naturellement de cette crise incroyable qui touche Cuba actuellement. Là, il y a, suite à tout ça, on ne s'entend pas bien là, sur les différents régimes. Fait que là, il y a l'embargo. Pendant 60 ans, les Américains là, coupent les vivres ou à peu près à Cuba. Comment Cuba, dans le fond, comment Cuba a réussi pendant 60 ans à y arriver, mais on va le dire avec des tie wraps et du tape électrique. Là. Ouais. Comment ils ont réussi? Puis pourquoi là, ça ne marche plus? Tu comprends ma question?
Oui. L'essentiel de la résistance cubaine au blocus américain, pendant très longtemps, dans ces 60 années-là que tu évoques, pendant très, très longtemps, la solution pour les Cubains, ça a été les relations avec l'URSS. Donc, tant et aussi longtemps que l'URSS qui est, et Cuba était devenu littéralement là, une destination. Les plages auxquelles tu référais avec Cousteau tout à l'heure, les Soviétiques les aimaient énormément aussi. Et finalement, pour l'essentiel, ce qu'on va avoir sur l'île va provenir de nos relations avec l'URSS.
Okay.
Donc, ça ne sera jamais facile. Tu parles de tape et de tie-rack. Ça n'a jamais été facile de résister, mais ça l'était plus jusqu'à temps que l'URSS tienne le coup. Et c'est une fois que l'URSS tombe, c'est le fameux mur de Berlin puis l'effondrement du bloc soviétique, bien là, à partir de ce moment-là, c'est on fait affaire avec qui et pour combien de temps. Et là, on se rapproche de la période actuelle puis du pourquoi ça va mal maintenant. c'est qu'on avait des partenaires relativement diversifiés, mais parmi ces partenaires, il y avait entre autres le Venezuela, ne serait-ce que pour le pétrole. Et depuis que les États-Unis ont capturé Maduro, depuis qu'on a changé le dirigeant du régime, mais depuis, en quelque sorte, qu'on contrôle le Venezuela et qu'on est plus sévère qu'on l'était auparavant avec ceux qui viennent tenter d'acheminer de l'aide à Cuba, bien là, pour les Cubains, ça devient littéralement insoutenable. Ce qu'on est en train de créer actuellement, c'est ni plus ni moins qu'une crise humanitaire.
Ouais, là, la question, puis je le sais, on ne peut pas décider pour un peuple. T'sais, on ne peut pas dire, ben, moi, je pense que, puis tout ça. Mais je te pose la question, OK?
Oui.
Avec tout ça, là, dans le fond, A, B, là, est-ce qu'on va assister à la fin d'un régime? Puis B, est-ce que si c'est ça, est-ce que tu crois que c'est ce que les Cubains souhaitent? Parce que le nerf de la guerre, il est là. Tu sais, quand tu y vas, tu te rends compte que ce peuple-là n'a pas besoin de grand-chose. Il fait beau, ils sont heureux, ils aiment nous recevoir, c'est des gens très accueillants. L'économie est autour du tourisme sans bon sens. On est les touristes qui représentent le plus gros pourcentage de la planète. Fait, moi, ma question, c'est, penses-tu qu'on va voir la fin d'un régime à la vitesse où on va? Puis crois-tu que les Cubains veulent ça?
C'est deux excellentes questions, puis deux questions pour lesquelles j'ai pas de boule de cristal, mais je te donne des éléments de réponse. Est-ce que ce régime-là va tomber maintenant? Est-ce qu'on est arrivé à la fin du régime? À court terme, ce serait très difficile de te répondre oui. Mais on est sérieusement ébranlé, et si le régime doit tomber, on est dans une période où il est particulièrement précaire. Mais pour qu'un régime tombe, il faut d'abord que les dirigeants tombent. Et les dirigeants, c'est encore le parti communiste, le président, c'est encore Diaz-Canel, et ils contrôlent tout. Et quand ils contrôlent tout, bien sûr, c'est l'armée, c'est les leviers économiques, c'est les médias. Et avec les médias, c'est là où ça se complique pour nous, quand on commande de l'extérieur. Quand on fait l'histoire de Cuba ou quand on couvre l'actualité à Cuba, un des gros problèmes qu'on a, c'est un problème de source. Donc, par exemple, j'ai raconté souvent ou expliqué comment Fidel Castro s'était maintenu au pouvoir. Et une des questions qu'on avait, c'était à quel point il est riche, Fidel Castro. Mais on n'a pas de source. On n'a pas de renseignements. J'en ai peu au plan historique. Et les sources qu'on a, elles viennent de l'étranger. Ce ne sont souvent pas des sources qui sont sur l'île. Mais au moment où on se parle, le gouvernement est encore bien en place. Et ce que Diaz-Canel dit, c'est on va lutter. Donc, pendant combien de temps? Si jamais on devait prévoir une chute de régime, pensez à moyen terme, pensez pas à tout de suite. Okay. Mais le régime est en crise. Et l'autre coup, est-ce que la population veut ça?
Exact.
Ça aussi. Est-ce que la population veut ça? Il y a des foyers déjà révolutionnaires sur l'île. Mais encore une fois, notre problème, c'est un problème de source ou d'accès à l'information. Il y a des gens qui sont prêts. Est-ce qu'ils sont assez nombreux, comme c'était le cas en 1959, par exemple? Est-ce qu'on serait prêt à accueillir des gens sur l'île puis à les laisser marcher vers le pouvoir? Ça, c'est ce qu'on n'est pas capable de certifier. Mais assurément, il y a des gens qui en ont assez de souffrir. Et on est dans une situation qui est pire que jamais. Donc, les Américains bloquent une bonne partie de l'aide internationale. On a même vu le Mexique défier les États-Unis, parce que le Mexique avait dit, on va jouer avec les fameux tarifs de Trump puis avec les pressions du géant américain au nord. Mais on a fini par céder en envoyant deux bateaux d'aide humanitaire. Et pour les Cubains, ce qui ajoute au désastre, c'est que tu mentionnais, et c'est vrai, le tourisme, c'est une ressource incroyable. C'est-à-dire que c'est ce qui fait entrer de l'argent et des touristes sur l'île. Mais l'autre grand secteur que les Cubains exploitaient, c'est qu'ils avaient un système de soins de santé qui n'avait rien à envier à personne. Et ils vendaient leurs services de soins de santé, entre autres, par exemple, au Brésil. Si vous allez voir ce que dit le Brésil au sujet de Cuba, ils sont plus sympathiques à Cuba, par exemple, et plus en porte-à-faux avec les Américains. Mais le problème, c'est que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre en médecine. Et malheureusement pour les Cubains, là aussi, les soins de santé sont à la baisse.
Ben oui.
Donc, ce qui était une force du régime, ce qui était un avantage, ce qu'on pouvait même monnayer à l'étranger, ben, c'est en déclin présentement.
Sais-tu quoi? Dans mon cours, je t'aurais donné 100. Je t'aurais donné 100%. C'est exactement Luc, c'est exactement ce que je recherchais. Je voulais de l'information, je voulais gratter un peu pour essayer de comprendre.
Puis ah, là... Écoute, quand est-ce qu'on s'inscrit au cours du prof de l'air? Maintenant, j'en ai plus de temps. Moi, je veux mon
sang. Hey, tu pars avec une bonne note, je te le confirme. Luc Laliberté, nouvellement retraité de l'éducation, naturellement, mais toujours chroniqueur et analyste politique pour La Vie américaine. C'est un classique que nous avons ensemble, mon cher Luc Laliberté. Je vais te demander de présenter la prochaine toune sur les ondes de Dollar le matin.
Ah, écoute, et ça me fait grand plaisir parce que c'est une chanson que j'ai eue comme verre d'oreille pendant très, très, très longtemps parce que ça touche Cuba, ça touche la Havane, mais en même temps, ça a touché beaucoup le thème de l'immigration aux États-Unis parce que l'artiste dont je vais mentionner le nom est allé appuyer l'immigrant qui lutte pour leurs droits aux États-Unis. Wow. Donc, écoute, ça me fait grand plaisir de partager un verre d'oreille avec vos auditeurs. C'est Camila Cabello et la chanson, c'est Havana.
Wow! Luc est trop parfait!
Luc est parfait! Wow! For president!
Drop the mic!
Au revoir!
Terminé!
Oh, drop the mic!
Havana, oh no. You didn't want-